Europe 1,
11h 12h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia,
bonjour à tous.
Je l'ai surprise, vous êtes donc bien fait pour vous, votre émission consacrée au bien-être, au mieux vivre et à votre santé. C'est tous les jours en direct de 11h à 12h30. Alors aujourd'hui Mélanie, quel est notre programme?
Voilà, je suis là, bien Julia. Pour lancer cette émission, tout d'abord comme tous les jours, on se posera une question importante qui nous concerne tous. Est-ce si bon que cela de manger du soja? Ça peut paraître curieux comme interrogation, posée là comme ça, surtout si on n'est pas végétarien. Mais cet aliment, qu'on le sache ou non, est de plus en plus présent dans nos assiettes. Pourtant, certains experts en nutrition conseillent de limiter sa consommation. Bref, qu'en est-il au final, notamment pour notre santé? Pour en parler, nous recevrons Julie Lotz, journaliste et autrice de Planète Soja, une enquête mondiale sur les dangers de ce faux ami aux éditions du Rocher.
Ensuite, à 11h35, on passera à notre dossier santé-bien-être du jour, dans lequel on a décidé de vous soulager ce matin. Si vous avez des douleurs, je sais pas moi, dans le dos, dans les jambes, dans la nuque par exemple, vous êtes au bon endroit. Un kiné ostéopathe sera en studio avec nous. C'est Nicolas Tikhomirov, alias Monsieur Clavicule. Et oui, c'est sur sa chaîne YouTube qui s'appelle comme ça. Il va nous soulager. Il nous conseillera les bonnes manipulations, les bons mouvements pour dire au revoir à quasi toutes les douleurs.
Et au passage, je vous le rappelle, si vous avez des douleurs plus particulières ou tout simplement des questions sur un des sujets de l'émission, n'hésitez pas sur le 3921, le répondeur d'Europe 1, ou encore sur le compte Instagram de l'émission.
Ensuite, dès midi, comme tous les jours, on retrouvera une partie de notre bande de chroniqueurs tendance. D'abord, un petit nouveau, le chef Abdel Alaoui, qui portera la chronique gastronomie du jour. Il va nous présenter des rouleaux de printemps de nouvelle génération. Puis Sophie Braffman, notre experte mode, nous décryptera les tendances fringues qu'on a peut-être loupées à la Fashion Week à Paris. Et enfin, on va terminer avec Nathalie Le Breton, notre spécialiste livre, qui va nous conseiller quelques lectures pour petits et grands pour éveiller les esprits à la bonne utilisation des écrans.
Europe 1.
Bien fait pour vous, c'est parti. Et donc Julia, ce jeudi, on va se poser cette question dans ce studio et y réfléchir ensemble. La question, la voici. Est-ce si bon que cela de manger du soja?
Eh bien exactement Mélanie, c'est vrai que dit comme ça, ça peut paraître anecdotique comme question, mais en fait on l'ignore, mais le soja est partout autour de nous. Il est présent par exemple dans de nombreux aliments que nous consommons au quotidien, donc c'est très important de savoir si tout ça a un impact sur nous, sur notre santé. Mais avant de détailler tout ça, mon petit doigt me dit qu'il ne mange pas que du soja. Bonjour Clément Lanoux.
Bonjour à toutes les deux, bonjour à tous. Effectivement, on nous a dit, essayons de limiter la viande, allons vers du soja. Et là, on nous dit, peut-être que c'est pas si bon que ça, j'ai hâte d'avoir la réponse. Je suis parti avec un petit micro sur les routes de France, comme chaque jour. Et j'ai demandé déjà à de nombreux Français, est-ce que, selon eux, c'est bon ou pas de manger du soja?
On a l'impression que c'est un produit très sain, je ne sais pas si c'est vrai. Et en parallèle, on a l'impression que c'est l'un des produits les plus génétiquement modifiés et donc pas très sain pour la santé. C'est très curieux, je ne sais pas trop quoi en penser.
Alors moi, avant, je mangeais du soja, mais depuis que j'ai eu des reportages sur les champs et les pesticides, j'avoue que j'ai arrêté. Donc je ne sais pas si c'est si bon que ça de manger du soja.
Est-ce que ça fait du bien, pas du bien? Ça n'a pas grand goût? Ça n'a pas changé? Tout le temps, un plat, faire quelque chose de meilleur, moins bon?
Donc les avis sont partagés.
J'ai cru qu'elle allait dire, quand j'ai découvert l'entrecôte, j'ai arrêté. Mais non, c'est pas ça.
Alors ben, vous croyez pas si bien dire, parce que justement j'ai une faculté à chaque fois que je pars faire un petit reportage, c'est de tomber sur la mauvaise personne. J'ai interrogé une personne complètement au hasard et je lui ai demandé, est-ce qu'on mange pas trop de viande? Est-ce que le soja c'est pas l'avenir? Voilà ce qu'elle m'a répondu.
Bah mon chéri est boucher, donc autant vous dire que le soja à la maison, c'est pas gagné. Soja au dîner, embrouille assurée.
Donc apparemment c'est un débat qu'elle avait eu déjà maintes et maintes fois. Et puis je me suis tourné vers une maman qui vit seule avec ses enfants et qui m'a dit qu'elle essayait justement d'instaurer du soja à la maison. C'est pas simple.
Pour l'instant, c'est un plaisir solo, écoute, mais j'espère que ça sera dans les repas de la famille pour cette année. Hein. Je lâche pas l'affaire.
C'est dur.
Faire des nuggets. Hein,
c'est dur de convaincre les enfants. Et pourtant, les enfants, ils adorent ça, le soja.
Ma maman, elle veut tout le temps que je mange du soja. C'est burk. Ça a goût du carton, c'est pas bon.
Donc effectivement, il y a peut-être un travail à faire de communication. Le soja, c'est burk. Donc je rassure tous les papas, toutes les mamans qui nous écoutent, qui veulent passer au fourneau, mettre davantage de soja. Il existe bien une technique. Je vous laisserai là-dessus. Voici cette technique. Prenez des notes.
Quand je sers du soja à mon fils, il me dit toujours qu'il aime pas. Du coup, j'ai développé ce que j'appelle la feinte de bœuf. En fait, je lui sers du soja en lui disant « le délicieux steak haché de bœuf !» Et le truc, c'est que ça marche.
C'est... Oh là là,
c'est
la
pas beau de mentir, ben, c'est pas beau.
Ils s'arrangeront avec leurs enfants plus tard, on verra. On leur paiera la psychothérapie plus tard. En tout cas, ça fonctionne, la feinte de bœuf. On dirait un truc sportif, la feinte de bœuf. En tout cas, bon appétit à tous. Je vous quitte là-dessus. J'ai hâte de savoir quand même si le soja, c'est bon ou pas pour la santé.
Ah bon, bah merci beaucoup Clément Lannou. On vous retrouvera bien sûr demain avec un nouveau
avec
reportage
plaisir.
Et davantage de bonne humeur chaque jour pour démarrer cette émission. Merci Clément. Tout de suite, place à notre invité du jour. Bonjour Julie Lotz.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et autrice du livre Planète Soja, une enquête mondiale sur les dangers de ce faux ami aux éditions du Rocher. Alors on va commencer par la base et déjà bien décrire ce dont on va parler finalement. C'est quoi du soja concrètement? Ça ressemble à quoi?
Alors, dans un champ, c'est une plante qui fait à peu près 1,50 m de haut et qui a des fruits qui ressemblent à un haricot parce que c'est en fait en forme de gousse et c'est les graines contenues dans cette gousse qui vont servir à fabriquer le jus de soja, les yaourts au soja, les steaks au soja et tous les produits au soja qui se multiplient dans les supermarchés.
Je crois qu'il y a deux types hein, de soja, c'est bien ça, c'est quoi la différence? Expliquez-nous.
Alors en tout cas, on parle parfois de pousses de soja, mais il ne s'agit pas... Vous savez, ce sont les petites pousses blanches qu'on nous sert parfois dans les restaurants.
Mungo, là, il n'y a pas un truc...
Voilà, alors en fait, il s'agit d'haricots mungo, voilà. Et il ne s'agit pas du tout de soja. Il ne s'agit pas du tout de soja, c'est pas du tout ça qu'on utilise pour faire le yaourt au soja qu'on retrouve dans nos supermarchés.
Bon, peut-être. Un petit peu d'histoire peut-être aussi pour démarrer cet éclaircissement, on va dire, autour du soja. Elle vient d'où cette plante à l'origine? Est-ce que vous pouvez nous le rappeler?
Cette plante, à l'origine, elle vient d'Asie, de Chine, et elle a été découverte là-bas il y a plus de 5000 ans, et elle est arrivée chez nous, en fait, assez récemment. On a commencé à en produire en France dans les années 80, et on a commencé à en manger de plus en plus, là, ces 30 dernières années, notamment avec la tendance du manger végétal, manger moins de viande. Effectivement, le soja est une bonne alternative.
Mais la production, en fait, elle a vraiment explosé à partir de quand?
Alors la production a vraiment explosé, on va dire, ces 5 dernières années, puisque en fait elle a quadruplé en France. Ces 20 dernières années, on est passé en gros de 50 000 hectares à 200 000 là.
Ah oui.
Alors ça reste minime quand même, hein, parce que en comparaison au blé, par exemple, le blé c'est 5 millions d'hectares en France, le blé qui sert à faire le pain, bien sûr. Donc le soja ça reste minime, mais oui, ça explose parce qu'on en mange de plus en plus.
Oui. Parce que donc vous dites, on en cultive aussi en France, et ça a donc explosé, même si ça reste minime par rapport au blé. Mais un peu de géographie peut-être, là, il faut quoi comme climat pour faire pousser du soja? On en trouve partout dans le monde, de quoi ça a besoin le soja pour pousser?
Alors c'est très exigeant, ça a besoin de beaucoup de chaleur et d'eau. Et donc alors les principaux pays qui cultivent le soja sont les États-Unis, l'Amérique latine bien sûr et le Brésil. Et en France, on en trouvait surtout au début dans le sud-ouest. Mais aujourd'hui, on peut en trouver jusque dans l'est de la France.
D'accord. Bah écoutez, je regarderai plus attentivement maintenant quand je verrai des champs.
Avec des petites gousses.
Mais on les récolte quand? On récolte quand?
Ça se passe au mois de... En fait, c'est entre mars et septembre. Et oui, en fait, vous verrez, c'est des plantes d'1,50 m de haut. Les fleurs sont violettes.
Bon, bah, on sera très attentifs. Merci beaucoup, Julie Lotz. On va bien sûr poursuivre cet éclairage sur ce produit, cet aliment qui est désormais presque partout dans nos assiettes, le soja. Savez-vous par exemple qu'on en trouve même dans des plats carnés, des boulettes de viande, des steaks hachés de bœuf? Alors pourquoi les industriels assemblent le soja à toutes les sauces? On va tout vous expliquer sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on prend soin de votre vie quotidienne. Et ce matin, on s'immisce un peu dans vos assiettes avec cette question. Est-ce que c'est si bon que cela de manger du soja? Tout ça en présence de Julie Lotz. Vous êtes notre invitée, vous êtes journaliste et autrice du livre Planète Soja, une enquête mondiale sur les dangers de ce faux ami aux éditions du Rocher. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, la culture du soja a explosé ces dernières années parce que la demande est immense. Pourquoi ça a tant la cote, le soja, depuis une dizaine d'années?
Vous aimez pas ça, vous, Julia? Bah, j'ai l'impression.
Bah, moyen, quoi. Faut bien savoir le cuisiner. Hein.
Mais le soja a vraiment la cote depuis plusieurs années parce que, en fait, ça va avec toute cette défiance qu'on a aujourd'hui envers la viande. Toutes les études qui ont montré récemment que, oui, manger trop de viande pouvait avoir un impact négatif sur notre santé. Tous les scandales alimentaires aussi, la crise de la vache folle, le scandale de la viande de cheval, et aussi, bien sûr, cette tendance à manger végétal parce qu'en fait, le soja contient beaucoup de protéines et est une excellente alternative, notamment à la viande, mais aussi à d'autres produits issus des animaux.
Ouais, il y a un côté très healthy hein, autour du soja, enfin en tout cas dans l'imaginaire public, je veux dire. Il y a même d'ailleurs des gens qui sont vraiment fans absolus de ce produit. Je crois que vous avez rencontré une famille où c'est vraiment soja matin, midi, soir. Racontez-nous ce qu'ils mangent ces gens-là.
Ouais, bah en fait c'est une famille végane, donc qui ne mange plus du tout de produits issus d'animaux. Et pour remplacer les produits issus d'animaux, c'est vrai que j'étais très étonnée, mais dans leur frigo, ils parvenaient vraiment à remplacer tout. Donc il y avait bien sûr le jus de soja qu'on ne peut pas appeler lait de soja, mais en gros c'est voilà pour remplacer le lait, des yaourts à base de soja, des steaks au soja, mais aussi du jambon à base de soja, de la bolognaise à base de protéines de soja.
Mais le jambon de soja, c'est un produit transformé en réalité, en plus
bah,
c'est
en
même
fait,
pas
c'est, ouais. c'est, ah oui bah oui alors
il y a des additifs et des machins dedans,
il faut faire attention à ça, c'est pas forcément effectivement plus sain parce que on se rend compte effectivement que ben de toute façon dans les plats préparés il y a pas mal d'additifs, donc il faut faire attention effectivement.
Il sert à quoi dans les plats préparé le soja?
Alors, il y a deux types de soja, c'est-à-dire qu'en fait, dans la bolognaise à base de soja, ben voilà, c'est une bolognaise à base de soja, on l'utilise pour remplacer la viande. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que les industriels utilisent aussi le soja dans des plats préparés, donc qui n'ont rien à voir. Enfin, ça peut être, par exemple, une vraie bolognaise, ou on en trouve même dans le chocolat, dans certaines nouilles, dans des chewing-gums. Alors ça, c'est le soja sous forme de lécithine. En fait, ça aide à mélanger les ingrédients, c'est un additif alimentaire. Et ensuite, on en trouve aussi dans la viande, dans la vraie viande. Donc, par exemple, dans des steaks hachés de bœuf, où les industriels peuvent en ajouter jusqu'à 30%. Wow. Ce qui n'est pas rien. Et en fait, les industriels disent donc le mettre parce que ça améliore la texture. En réalité, ça leur permet de faire des économies. Et en fait, le soja coûte moitié moins cher que la viande. Donc, c'est
plus
hyper intéressant.
Ouais. D'accord. Oui, j'allais vous dire, c'est ça aussi le côté économique pour la raison pour laquelle l'industrie agroalimentaire l'utilise beaucoup. À quel point c'est rentable? C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 100% de steak haché de bœuf, quoi, on va dire, ils coupent ça. C'est comme quand on coupe
autre chose. En fait, ils peuvent en ajouter. Alors jusqu'à 30%. Après, c'est
noté sur l'emballage, hein, parce que c'est vrai que moi j'ai jamais regardé. Hein.
Alors voilà, le problème, c'est que oui, en fait, si vous allez dans votre supermarché, que vous allez chercher les steaks hachés qui sont par exemple au rayon,
viande sous vide, quoi.
Voilà. Ah, ouais. Vous allez pouvoir voir protéines de soja 30%. Mais c'est vrai qu'il faut regarder. Mmh. Le problème, c'est que dans les restaurants et les cantines scolaires. Enfin, nous, on en a trouvé dans des cantines scolaires. Et là, le problème, c'est que souvent, les enfants ne le savent pas, les parents non plus. Or, c'est important de l'indiquer parce que le soja est également un allergène. Donc, les industriels sont obligés de l'indiquer. Mais c'est vrai qu'en restauration collective ou dans les restaurants, ce n'est pas toujours le cas.
Oui, à la cantine, on a juste le menu devant l'école. Et puis, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans le steak haché du petit.
Voilà, c'est le cas donc, dans les steaks à base de... Enfin, les steaks hachés,
mais les boules au beurre. C'est peut-être d'aller chez le boucher. Hein, si on veut un vrai steak haché, il ne mettra pas du soja, lui, je pense. Hein.
Ouais, mais sauf que dans les cantines, je crois que c'est pas comme ça que ça se passe, effectivement. D'ailleurs, quand on voit, nous, steak de soja ou autre aliment à base de soja, on se dit que ça a l'air bon pour notre santé, étant donné qu'on nous dit qu'on mange trop de viande. Mais en fait, il y a quoi véritablement d'intéressant dans le soja pour notre santé ?
Alors, le soja, c'est intéressant parce que ça contient très peu de graisses saturées, donc de cholestérol, et on sait qu'aujourd'hui, manger trop, même si c'est important d'en manger un peu, en manger trop, ça peut entraîner des maladies cardiovasculaires. Mais ça contient surtout énormément de protéines. Donc en fait, une graine de soja, ça contient 35% de protéines. En fait, c'est le végétal qui en contient le plus. Donc, il est utilisé pour remplacer la viande, parce que en fait, là aussi, les protéines, c'est essentiel pour nous. Hein. Il faut qu'on en consomme pour une femme de 60 kilos, c'est 50 grammes par jour. Donc, il faut quand même en consommer pas mal. Pour un homme, c'est 66 grammes, les recommandations. Donc, ça contient beaucoup de protéines. Après, il faut faire attention parce que tous les produits au soja n'en contiennent pas de la même manière. Par exemple, un yaourt au soja, ça ne va pas vous apporter beaucoup de protéines.
C'est pas autant qu'un steak haché. Mais j'allais vous dire, par rapport à la viande, par exemple, alors, on est aussi près en termes de quantité de protéines dans un steak de soja que dans un steak haché?
Alors, c'est intéressant.
Un vrai steak haché, hein, je précise.
C'est intéressant parce qu'un steak au soja va contenir 15 grammes de protéines en moyenne. Là encore, il faut faire attention parce que certains en contiennent...
Plus ou moins.
Voilà. un steak de viande, enfin voilà, un steak haché va contenir 25 grammes de protéines en moyenne. Donc on est un peu en dessous, mais quand même, c'est encore une fois, et pour le coup, les végétariens, les véganes le savent, assez difficile de trouver des sources de protéines. Donc même si le steak au soja en contient un peu moins, c'est une alternative intéressante.
Alors certains prétendent que la consommation de soja, ça permet de diminuer l'apparition des maladies cardiovasculaires. Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce qu'on a des preuves?
Alors, ça a été en fait, les États-Unis, la FDA, hein, l'agence
de contrôle,
sécurité américaine, a dit en 99 que oui, enfin avait autorisé cette allégation santé que oui, le soja pouvait réduire les risques de maladies cardiovasculaires en mangeant 25 grammes de soja par jour. Or, ils sont revenus sur cette allégation en 2017 en disant qu'en fait, on n'a pas assez de preuves pour dire que le soja réduit le risque de maladies cardiovasculaires, qu'en mangeant du soja, on va être moins à risque. Ouais. En revanche, effectivement, le soja contient très peu de graisses saturées. Donc, oui, si on mange beaucoup de soja, on prend peut-être moins de risques.
Parce qu'on mange moins de viande aussi, moins de charcuterie.
Voilà, mais si on continue à côté à manger plein de graisses saturées, manger du soja ne va pas réduire les risques.
Donc si vous mangez un steak de soja tous les midis, mais un saucisson entier le soir, bah ça marche plus. Quoi,
et donc non, cette allégation santé n'est pas aujourd'hui, en tout cas, reconnue par les autorités sanitaires.
Parce qu'effectivement, et c'est quand même un peu de ça dont vous parlez dans votre enquête, c'est pas tout rose du côté du soja, c'est l'objet de votre livre. Vous avez remarqué notamment que des femmes consultent un médecin à cause du soja, expliquez-nous en détail ce que ça veut dire.
Alors en fait, c'est effectivement une gynécologue que j'ai rencontrée à l'époque qui m'a parlé en fait de nombreuses femmes qui venaient la voir parce qu'elles avaient des problèmes dans la régularité de leur cycle menstruel. Donc elles avaient plus leurs règles ou à nouveau, enfin elles étaient déréglées en fait. Et elle m'a expliqué, alors c'est pas la seule, hein, aujourd'hui beaucoup de chercheurs ont travaillé sur la question, que le soja contient des phytoœstrogènes. Donc en gros, ce sont des molécules qui agissent comme les hormones féminines. Mm-hmm. Donc phyto, la plante, œstrogène, c'est les hormones sexuelles femelles. Et donc, ce qu'on ne sait pas, mais ce qui est aujourd'hui effectivement reconnu, hein, les autorités sanitaires ont quand même alerté depuis 2005 déjà, le soja, en raison de la présence de phytoœstrogènes, peut entraîner des problèmes hormonaux, des problèmes de fertilité.
Ah mince.
Ce qu'on ne sait pas, ou très peu, c'est qu'il est déconseillé aux personnes aussi qui ont des problèmes de thyroïde. Et d'ailleurs, quand on regarde la notice des médicaments qu'on prend quand on a des problèmes de thyroïde, il est bien mentionné que consommer du soja peut en fait altérer l'effet du médicament. Ce qui est quand même,
Ça veut dire qu'une femme qui chercherait à tomber enceinte, il faut y aller mollo sur le soja. Quoi.
Le soja est déconseillé aux femmes enceintes, aux enfants de moins de 3 ans, donc aux personnes qui ont des problèmes de thyroïde et aux femmes qui ont eu des cancers du sein hormonodépendants parce qu'il peut y avoir un risque de récidive.
Et d'ailleurs, vous parliez des enfants, est-ce qu'on a une idée de l'impact d'une trop grosse consommation de soja, et pas forcément pour les moins de 3 ans, je parle pour les enfants après 3 ans.
Alors, les autorités sanitaires ont émis des recommandations en fait, donc pour fixer en fait, une limite qui est de 1 mg de phytoœstrogènes par kilo et par jour. Donc, c'est pour une femme de 60 kilos, ça fait 60 mg, pour un homme 80, et ça équivaut à peu près à un steak de soja, un verre de jus de soja et un gros bol de jus de soja pour un homme. Mm-hmm. Pour une femme, c'est un steak et un verre de jus de soja, et pour un enfant, c'est un demi-steak. La limite, en fait, est atteinte
par
avec...
jour, c'est ça, pas plus d'un demi-steak.
Alors, le problème, c'est que c'est pas indiqué sur les aliments, donc c'est assez difficile de s'y retrouver, en fait.
Vous avez parlé des risques éventuellement pour les femmes, donc qui vont consommer trop de soja, donc trop de phytoœstrogènes, ça peut avoir donc des répercussions sur les hormones, mais sur les hommes, s'ils se gavent de soja, entre guillemets, avoir ce surplus, on va dire, d'hormones féminines, ça peut pas engendrer des problèmes aussi?
Alors, des études ont montré qu'une forte consommation de soja entraînait une réduction de la concentration spermatique, mais la question n'est pas tranchée au niveau des hommes. En revanche, les limites, donc les recommandations des autorités sanitaires françaises valent effectivement aussi pour les hommes, et donc pour les hommes, il est conseillé de ne pas dépasser voilà, donc un gros bol de jus de soja, un verre et un steak.
D'accord. Julie Lotz, vous restez avec nous. On a encore quelques questions sur le soja qu'on consomme donc parfois, malheureusement, en trop grande quantité. Et nos auditeurs aussi ont des questions pour vous. On en a déjà reçu quelques-unes. D'ailleurs, s'il vous en passe une petite dernière par la tête, c'est le moment. Vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur le hashtag Europe 1, ou encore au 3921, le répondeur d'Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre question ce matin est la suivante. Est-ce si bon que cela de manger du soja ou enfin surtout trop de soja? Parce qu'on a bien compris jusque-là qu'on en mange même sans le savoir au quotidien. Alors pour nous éclairer, elle est notre invitée ce matin, Julie Lotz. Vous êtes journaliste et vous avez mené une grande enquête sur ce sujet. Et donc la solution, c'est qu'avec le soja, finalement dans notre assiette, il faut y aller mollo. Ça, on l'a compris. On a une question justement d'une auditrice, c'est Sophie qui nous a laissé un message au 3921. Elle demande si on peut au moins donner des yaourts au lait de soja à ses enfants, car les siens en raffolent. Depuis qu'ils ont goûté, plus moyen de leur faire avaler un yaourt au lait de vache. Bon, bah, c'est étonnant, les miens préfèrent le lait de vache. Mais parce qu'elle se dit, il y a bien du calcium dedans, donc est-ce que c'est bon pour eux? Elle vous demande.
Alors, en fait, il faut faire attention à prendre justement les yaourts avec du calcium ajouté, parce qu'en fait, le soja, ça n'en contient pas. Donc, il faut justement, il peut y avoir des carences en calcium si on ne consomme que ça. Et encore une fois, attention, parce que oui, en consommer de temps en temps, évidemment.
Mais c'est... les enfants ont besoin de lait de vache pour leur croissance, alors, en fait. Enfin, de lait, en tout cas.
Oui, après, je pense que ce qui est bien, c'est de consommer en fait les deux, ou même plusieurs variétés, parce que maintenant, il y a aussi les yaourts au lait d'amande, au lait de coco. Enfin, en gros, le but...
Mais c'est pas du lait.
C'est pas du lait. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention à en prendre avec du calcium ajouté. Okay. Voilà.
Faut pas avoir de carence.
Moi, j'ai une question de moi, en fait, hein, de moi-même. Souvent, j'utilise à la maison de la sauce soja, sucrée, salée, peu importe, souvent pour manger avec des sushis, d'ailleurs. Est-ce que ça, on risque l'overdose de soja?
Alors, la sauce soja qu'on met sur les sushis ne contient quasiment pas de phytoestrogènes. Donc, encore une fois, ça, en fait, il faut déjà noter que dans certaines sauces soja, il y a en majorité du blé. Donc, voilà, donc non, on ne risque pas.
Il y a du soja quand même.
Il y a un peu de soja, oui, bien sûr. Mais en tout cas, sous cette forme-là, les phytoestrogènes dont on parlait tout à l'heure ne sont pas très présentes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que d'un aliment à l'autre, encore une fois, la teneur varie énormément. C'est d'ailleurs pour ça que les autorités sanitaires avaient recommandé aux industriels d'indiquer sur les emballages la teneur exacte, en phytoestrogènes. Oui. En l'occurrence, aucun ne le fait. Encore aujourd'hui, ils ont recommandé ça en 2005. Les autorités sanitaires ont recommandé ça en 2005.
Il est temps de se réveiller, peut-être, hein, effectivement. Donc, vous dites de la sauce soja, pas de problème. Moi, je connais des gens qui assaisonnent tout avec ça. Pas seulement les sushis. Ils peuvent y aller, mais par contre, là, c'est très salé. Donc, c'est un autre problème, mais allez-y, peut-être avec le vinaigre, c'est mieux, finalement. Hein.
Alors, j'ai une question de Léon, qui habite Fécamp, sur la page Facebook d'Europe 1, qui dit qu'on n'a rien dit du problème environnemental lié à la culture du soja. Il parle, lui, d'un désastre écologique. Désastre dont vous avez été témoin, je crois d'ailleurs, au Brésil, non ?
Oui, absolument. Donc, je me suis rendue au Brésil justement pour aller voir ça les dégâts sont considérables, en fait. L'explosion de la production de soja, elle est mondiale. Et le soja est surtout produit d'abord au Brésil, en Argentine, où là-bas, effectivement, on a déforesté de façon massive, en fait, pour produire ce soja. Et l'autre problème, c'est que c'est un soja donc génétiquement modifié, qui est très traité avec des herbicides, et en l'occurrence, beaucoup avec cet herbicide dont on a beaucoup parlé, qui est le Roundup, l'herbicide à base de glyphosate. Alors, ce n'est pas le soja qu'on mange, qu'on a dans nos supermarchés en France.
Ah, c'est déjà rassurant quand même.
Alors, c'est indiqué sur les emballages, mais on n'a pas le droit en tout cas de cultiver ce soja OGM. Ce soja OGM très traité aux pesticides, aux herbicides, est donné à nos animaux. Le problème, c'est
qu'on mange les animaux, donc c'est un problème quand même.
Ouais, mais c'est vraiment ça le souci. Enfin, nous en tout cas, on a remonté la chaîne et on s'est aperçu que même dans le lait de vache, issu de ces animaux qui ont mangé le soja OGM, on retrouvait des résidus de glyphosate dans des doses inférieures aux doses autorisées, mais les médecins aujourd'hui s'inquiètent de ces doses, puisqu'en fait, comme vous le savez, on retrouve aujourd'hui ces résidus de glyphosate un peu partout dans l'alimentation.
Et donc, si la culture du soja a explosé, c'est pas tellement pour faire nos yaourts et nos steaks de soja, non. C'est plus pour les animaux, alors.
Exactement,
en fait,
exactement. En fait, dans le monde, l'augmentation la production de soja a augmenté de 70%. On en produit 400 millions de tonnes aujourd'hui, et effectivement, c'est en grande partie pour nourrir nos animaux pour l'élevage industriel.
Oui, mais enfin, ça termine dans notre corps.
Exactement.
Voilà, c'est la chaîne.
Et c'est bien le problème, ouais.
Bon. Exactement. Merci beaucoup Julie Lotz d'avoir accepté notre invitation dans Bienvenue pour vous ce matin sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre livre sur le sujet Planète Soja, une enquête mondiale sur les dangers de ce faux ami aux éditions du Rocher.
Oui, merci encore à vous. Et à présent Mélanie, on va changer de thème. D'ailleurs, est-ce que vous avez mal quelque part? Vous avez mal quelque part, Julie, vous?
Pas ce matin, mais il m'arrive d'avoir parfois mal au dos.
C'est dommage, il y a quelqu'un en studio qui aurait pu vous aider. Moi j'ai mal entre les deux omoplates, là, régulièrement.
Mais moi j'ai aussi un petit peu mal là, ouais, dans le coin là, à la droite du dos. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va trouver des solutions, parce que dans cette émission, on ne trouve que des solutions. Tout de suite, c'est notre dossier santé du jour.
Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Alors pour ce dossier santé, ce jeudi consacré à ces douleurs dans notre corps qui nous pourrissent parfois la vie et surtout aux moyens de s'en débarrasser, on est très bien accompagnés. Vous êtes avec nous dans ce studio. Bonjour Nicolas Tikhomirov, c'est ça ?
Tikhomirov, c'est ça.
Alias donc Monsieur Clavicule.
C'est plus simple à dire.
Sur votre chaîne YouTube, vous êtes kiné et ostéopathe, mais aussi l'auteur du livre Bien dans votre corps aux éditions Albin Michel. C'est Alors ça. On va déjà commencer par la consultation de Julia. Non, je plaisante, on verra ça plus tard. Mince. On va définir ensemble ce qu'est finalement une douleur. Dans votre livre, on apprend que ce serait un signal d'alarme, c'est bien ça?
Exactement, c'est un signal d'alarme. On pourrait donner une ou deux définitions. D'ailleurs, la douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, hein, c'est pas forcément agréable, en lien associé avec une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Voilà, donc ça, c'est la définition vraiment de la douleur. Mm-hmm. Et on pourrait donner une deuxième définition que j'aime bien de Johanna Burke qui dit « Toute personne qui affirme avoir mal à mal ». Parce qu'on a beaucoup culpabilisé les patients, notamment les professionnels de santé, en disant « Vous fabulez, c'est pas vrai, vous inventez votre douleur, elle est dans votre tête ». Et je pense qu'il faut arrêter de culpabiliser les gens. Les gens qui ont mal ont vraiment mal. Il faut vraiment maintenant prendre en charge la douleur.
Ça, c'est vrai. Et alors, on parlait de signal d'alarme. Donc, si c'est un signal d'alarme, la douleur, ça veut dire que c'est positif d'avoir mal.
Effectivement, c'est positif. Dans la douleur aiguë, c'est un signal d'alarme pour nous dire qu'il y a un danger potentiel. Par exemple, vous prenez un plat au micro-ondes, il est brûlant, vous allez le lâcher, sinon vous auriez eu une lésion tissulaire. Donc c'est vraiment là pour nous protéger en fait. Mais parfois, ce signal d'alarme se dérègle un peu. Et là, on peut tomber dans des douleurs persistantes ou douleurs chroniques. Et là, ça devient un peu plus négatif.
Bon, est-ce qu'on va tous ressentir la même douleur face au même coup, par exemple?
Absolument pas.
Je ne sais pas, Julia et moi, est-ce qu'on n'est pas plus douillettes l'une que l'autre?
Chacun a sa sensibilité à la douleur. Et en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il n'y a pas de lien entre une douleur, par exemple, et une gravité d'une lésion. En fait, on ne peut pas faire de lien entre les deux.
Ah, on peut avoir très mal et c'est rien du tout.
Exactement. Ou on peut avoir absolument pas mal et avoir une fracture vraiment méchante. Et il y a des gens qui ne ressentent pas la douleur de la même façon. Enfin, donc c'est très...
Les hommes la ressentent très très fort. Hein. J'ai l'impression qu'ils se plaignent beaucoup, hein, mais je ne sais pas.
Des fois, on est un peu chochotte, c'est vrai.
C'est ça. Mais c'est vrai que... ça d'ailleurs, parce qu'on dit que les femmes sont programmées, entre guillemets, notamment pour enfanter.
Au niveau scientifique, ce serait même plutôt le contraire,
c'est-à-dire
il y aurait plus de sensibilité pour les femmes. Voilà, c'est ce qu'il dit au niveau de la science. Mais
vous n'avez jamais accouché, monsieur Clavicule. Vous savez qu'il y a une expérience, hein, je ne sais pas, ça date d'il y a quelques années, on a fait simuler des contractions à des hommes, on leur a mis un simulateur de contractions.
Ils sont décédés d'ailleurs.
Ah non, mais ils étaient dans un état.
Je veux bien le croire. Pour avoir vu ma femme accoucher deux fois, c'est vrai que c'est... Ouais.
Bon, c'est pas de ces douleurs-là qu'on parle aujourd'hui.
Voilà.
Alors, pourquoi une douleur peut évoluer justement négativement? Vous disiez, bon, il y a ce signal d'alarme, après on est chacun sensible.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au bout de 6 mois, en fait, la douleur peut basculer dans une chronicité, en fait, c'est-à-dire on appelle ça une douleur persistante. On a arrêté de dire douleur chronique parce que ça fait peur aux patients. Donc
il faut que ça dure plus de 6 mois. Hein.
Voilà, plus de 6 mois, et en fait, il va y avoir de différents facteurs qui vont influencer cette douleur. Et c'est ces facteurs-là qu'il faut faire pointer, que les patients doivent mettre en avant. Donc ils sont comme les fausses croyances au niveau de la douleur, la peur du mouvement, ça peut être des facteurs qui vont sensibiliser la douleur, mais aussi tout ce qui est les facteurs psychologiques, donc l'anxiété, la dépression, le catastrophisme, tout ça, ça va vraiment sensibiliser et augmenter notre niveau, notre perception de la douleur. Mais après, il y a d'autres choses qui vont influencer, le stress, tous les facteurs environnementaux, quand on est sous pression, les facteurs sociaux, quand on est en isolement social, on n'a pas d'amis.
Le Covid, les confinements, ça a donné quoi justement?
Ben ça,
les gens avaient plus mal, moins mal.
Ça a donné un déconditionnement physique déjà. Les gens sont devenus de plus en plus sédentaires. Donc ça va énormément influencer la douleur. Plus l'isolement social. Il y a des gens qui se sont retrouvés seuls, qui ne voyaient plus leur famille. Et tout ça, c'est des facteurs qui vont être très aggravants pour la douleur. En fait, il faut imaginer que c'est un niveau d'alarme qui est très élevé et on n'arrive plus à le faire descendre à la normalité. Donc on a tout le temps mal.
Voilà. Tout le temps, vraiment. Tout le temps mal, sans répit. Et ça, pendant plusieurs mois. Alors voilà. Là, on est dans la chronique, douleur chronique.
Dans la douleur chronique.
Persistante. Autrement, il y a des petits bobos aussi.
Après, il y a des petits bobos. Et là, dans ces cas-là, ça va être juste la lésion tissulaire. Une fois qu'elle va cicatriser, normalement, on n'a plus mal. Voilà.
Alors, comment on traite une douleur de façon générale? Est-ce qu'il faut plutôt immobiliser la partie du corps touchée ou au contraire, est-ce qu'il faut la stimuler, faire des mouvements? Bref, soigner le mal par le mal?
Ça va dépendre du type de lésion. On va imaginer que ce soit une fracture, vous êtes cassé le pied. Là, il faut mettre les béquilles et ne pas appuyer sur la fracture pendant 6 semaines, pendant 8 semaines. Il faut laisser au repos le temps que ça consolide. Après, certaines pathologies comme une déchirure au niveau au niveau des jambes, quand on fait du sport, des ischio-jambiers, du mollet. Là, au contraire, on s'est aperçu maintenant que plus vite on remet en mouvement et plus vite on remet en charge le muscle, et mieux il va cicatriser. Donc, ça va dépendre un petit peu des types de pathologies. On va adapter notre prise en charge, en fait.
Bon, l'assurance maladie l'a compris. Hein. Ils disent, notamment pour le mal de dos, le meilleur des traitements, c'est le mouvement.
Bon, d'accord avec ça? Complètement. C'est-à-dire qu'avant, quand on avait une lombalgie, on laissait les gens allongés, alités, c'était une catastrophe. Alors que maintenant, il faut essayer de bouger le plus rapidement possible, mais de façon très graduelle, de façon très progressive. L'idée, c'est de pas, on va pas faire des squats dès le premier jour. On va y aller déjà commencer à marcher un petit peu dans son appartement, dans sa maison, et progressivement se faire prendre en charge par un professionnel de santé, c'est très important, et remettre en mouvement son corps. C'est comme ça qu'on. Oui. Le meilleur des traitements, c'est le mouvement.
De toute manière, moi, les squats, même quand j'ai pas mal au dos, je suis contre, de toute façon.
moi, depuis qu'on se parle, j'ai de nouveau mal, mais alors cette fois en bas du dos, ça me rend hypochondriaque, cette émission.
C'est psychologique, là.
Monsieur Clavicule, on va bien sûr continuer dans un instant avec ces douleurs qui nous enquiquinent au quotidien, et on va passer à la pratique. Ouais. Quand faut-il consulter un médecin ou un kiné? Y a-t-il des gestes, des mouvements qu'on peut déjà faire chez nous pour se soulager? On va détailler tout ça sur Europe 1 avec vous.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est Bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on tente de faciliter votre vie et même votre santé, puisqu'on s'attaque à ces douleurs dont on peut tous être victime un jour. On en parle avec vous, Nicolas Tikhomirov, alias Monsieur Clavicule. Vous êtes kiné et ostéopathe, mais aussi l'auteur du livre Bien dans votre corps aux éditions Albin Michel. Alors, il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils ressentent une douleur, un mal de dos par exemple, qui se disent, bon, ça va passer tout seul. Est-ce qu'ils ont raison?
Alors déjà, oui, d'être optimiste, c'est très important. Ouais. Donc de se dire, oui, ça va aller mieux d'ici 3-4 jours, effectivement, c'est très très important. Ensuite, quand ça passe pas tout seul, il faut se faire accompagner, tout simplement, aller voir son médecin généraliste, faire un bilan avec lui, puis ensuite, s'il y a besoin, des séances de kiné ou de l'ostéopathie. Voilà, il y a différentes approches thérapeutiques à mettre en place.
Mais la méthode Coué, ça marche?
La méthode Coué, de toute manière, il faut, dans tous les cas, il faut la mettre en place, c'est-à-dire se dire que, voilà, on va aller mieux. On a démontré scientifiquement que les gens qui étaient optimistes, ils guérissaient mieux que les personnes qui étaient pessimistes et qui disaient, je vais jamais m'en sortir.
Puis quand on est très optimiste dans cette émission, signalons quand même que les douleurs persistantes dont vous avez parlé, c'est pas la majorité des douleurs. La plupart, elles passent.
C'est pas la majorité des douleurs, tout à fait.
Et puis se dire même pas mal, ça marche ça?
Alors, c'est toujours pareil. Des fois, la douleur doit être un guide.
Vous êtes dur au mal, vous.
Des fois, il faut l'écouter comme un guide. Et puis, des fois, il faut savoir un peu la mettre en sourdine aussi. Mais il faut, dans ces cas-là, quand on sait pas trop, il vaut mieux être accompagné. Je préfère quand même conseiller ça pour pas faire de bêtises. Parce qu'il y en a certains qui forcent trop et au final, ils aggravent leur douleur.
Alors, on a déjà des questions sur les réseaux sociaux de nos auditeurs. On a Gwenaëlle, par exemple, sur la page Facebook d'Europe 1 qui dit « Bonjour, pour certaines douleurs, on ne peut rien faire, comme les douleurs neurologiques. » Qu'est-ce que vous en dites?
Alors, non, on a toujours des solutions. Comme je vous ai dit, la douleur est multifactorielle, il y a plein de facteurs qui vont l'influencer.
Sur des neuropathies par exemple, après une chimio, imaginons sur les doigts, les pieds, on peut faire quoi?
Il faut voir, par exemple, le mouvement peut améliorer. C'est des personnes peut-être qui se sont déconditionnées parce qu'ils ont fait des chimios et donc derrière, il faut les remettre en mouvement. Peut-être regarder leur qualité de sommeil, ils dorment pas bien, donc essayer de travailler sur des petits facteurs comme ça.
Et ça peut atténuer
bien sûr,
les douleurs neurologiques.
Comme tous ces facteurs-là influencent et sensibilisent notre douleur, si jamais on on arrive à mettre le doigt dessus et à travailler dessus avec plusieurs thérapeutes différents, oui, on peut améliorer les douleurs. Donc il faut jamais lâcher l'affaire.
Vous écrivez que beaucoup de patients débarquent au cabinet en pensant que vous allez les débloquer avec une seule manipulation. C'est pas aussi simple ?
Non, c'est pas aussi simple.
Vous n'êtes pas magicien alors ?
On n'est pas magicien
parfois,
déjà.
Parfois ça arrive, non ?
Disons que quand les gens viennent déjà, ça marche pas juste on les manipule en une fois, enfin une manipulation. Déjà il y a un bilan, il va y avoir l'écoute, il va y avoir un interrogatoire, on va créer une alliance thérapeutique avec la personne et tout ça, ça prend un petit peu de temps et on saute pas sur quelqu'un comme ça, on le manipule pas comme ça, bonjour, crac et au revoir quoi. Ça marche pas comme ça.
D'ailleurs justement vous dites crac, on va en parler, il y a Hugo Loss sur notre compte Instagram qui demande est-ce dangereux de faire craquer nos os ?
Alors,
attendez. Non, ne le faites pas, s'il vous plaît, je déteste ces bruits-là, mon Dieu, quelle horreur.
Scientifiquement, on n'a aucune preuve comme quoi ce serait négatif, hein, ce serait néfaste. Donc, ça relève plus de l'automatisme, du tic. Voilà. Donc, non, ce n'est pas, il n'y a pas d'impact particulier. Après, il ne faut pas que ça devienne non plus une obsession, quoi. Voilà.
Non. Moi, j'aime bien. Très désagréable pour les gens à côté. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à certaines pathologies du quotidien. Dans votre livre, vous en évoquez 25. On va revenir sur quelques-unes d'entre elles.
C'est ça.
Alors, monsieur clavicule, déjà, premièrement, c'est quoi un torticolis ?
Oula, souvent les gens ils se disent j'ai pris un coup de froid dans la voiture, j'ai mal dormi et tout ça. Bon, c'est des explications qui sont dites par les patients, mais en fait qui n'ont aucune vraiment validité. Quand on sait que c'est, vous imaginez que c'est multifactoriel, donc il y a plein de causes qui peuvent s'ajouter et c'est difficile des fois de savoir exactement quelle est la cause principale.
Moi j'en avais un quand j'avais un mauvais oreiller, j'ai changé d'oreiller, j'en ai plus.
Ouais, mais peut-être que c'était une période aussi où vous étiez plus stressé que d'habitude. Il y a plein de choses où un petit peu, voilà, plein de facteurs qui peuvent influencer.
Et puis, est-ce que c'est aussi potentiellement parce qu'on tourne la tête trop vite, non ?
Non. Alors, certaines personnes disent que c'est un spasme musculaire qui vont. Bon. Voilà. Il y a des hypothèses. On n'est pas sûr encore exactement de. Voilà.
Bon, la cause, elle n'est pas claire, on l'a compris. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'en arriver à avoir à porter une minerve ? Qu'est-ce que vous nous conseillez
sur le
torticolis ?
Déjà, ne pas porter de minerve, déjà, parce que ça faiblir. Donc, ne mettez pas de minerve. Déjà, se dire, comme tout à l'heure, on a dit d'être optimiste, se dire un torticolis, dans tous les cas, ça va mieux en 3-4 jours. Donc, pas de stress, ça va aller mieux. Voilà, on reste optimiste.
Il n'y a pas de torticolis qui demeure après 3-4 jours.
Alors, derrière, il y en a certains, effectivement, qui peuvent basculer dans du chronique, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de facteurs, comme on a vu tout à l'heure, qui vont l'influencer. Donc, des terrains très anxieux, avec de la dépression,
du
stress.
Mais une technique à faire vraiment pour se mettre en mouvement à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ?
Alors, déjà, concrètement, on peut déjà se mettre en mouvement, essayer de venir chercher la zone un peu douloureuse en faisant par exemple des rotations de tête, des inclinaisons, des flexions, venant chercher le menton vers le sternum comme ça, ou en extension en arrière. Voilà, d'essayer de mobiliser ses cervicales doucement, aller jusqu'à la barrière douloureuse et essayer petit à petit de gagner. Voilà,
c'est ça,
le
combien
mouvement.
De fois d'affilée
on peut le faire 10 fois d'affilée, 2-3 fois par jour pour commencer. Voilà, ou alors des petits étirements où on vient attraper l'oreille opposée et tirer doucement sur la tête pour mettre en tension tout le trapèze. Vous voyez, ça, c'est des étirements qui sont faciles à faire et qui peuvent aussi être intéressants.
Ça, c'est en attendant d'aller vous voir, on est d'accord. Si on a vraiment trop mal, on peut quand même aller voir son ostéo.
Exactement. Si la douleur est trop importante, dans ces cas-là, on va voir son ostéo, on va voir son médecin.
Ou son kiné.
Alors, pour voir son kiné, il faut quand même passer chez le médecin, parce qu'il faut une prescription médicale, mais une ordonnance. Mais en tout cas, on va consulter et parfois, ça permet d'aller un peu plus vite. Donc, il ne faut pas se priver des choses qui peuvent nous faire du bien.
Alors, vous évoquez aussi dans votre livre la tendinopathie des fessiers. Ça, Julia, ça lui arrive tout le temps. Est-ce qu'on peut nous expliquer
c'est quoi ?
Vous expliquer ce que c'est.
C'est une irritation, une petite inflammation au niveau du fessier sur le côté de la hanche, en fait.
Je crois que j'ai ça en ce moment même. Vous voyez, je ne montais pas.
On en parle.
Je n'en mange jamais.
C'est plutôt derrière, vous montrez. Donc là, c'est plutôt sur le côté. D'accord. Le fessier, c'est chez les gens qui courent beaucoup, les gens qui piétinent ou qui vont. Voilà, ça va un peu s'irriter sur le côté. On va avoir une douleur. Les fessiers sont stabilisateurs du bassin pendant la marche. Donc c'est ça s'irrite. Et là, tout simplement, il faut remettre en contrainte le muscle. C'est parce qu'il va y avoir trop de contraintes sur une zone, trop de stress mécanique, on appelle ça. Et du coup, le muscle, le tendon va s'irriter.
Qu'est-ce qu'elle peut faire, Julia, comme exercice pour faire partir sa tendinopathie du fessier
Elle peut se mettre déjà debout avec un petit élastique au niveau des jambes et écarter les jambes tranquillement.
Mais l'élastique, elle le met où dans ses jambes ?
Au niveau des chevilles. Et puis elle va écarter ou marcher comme un crabe sur le côté, par exemple. Elle nous fait le petit crabe et là, elle va bien sentir que ça chauffe au niveau des fessiers. Et elle y va comme ça pour remettre en contrainte cette zone.
Vous dites ça chauffe justement, mais du chaud ou du froid sur une douleur de ce type-là, par exemple, un torticolis ?
Il n'y a pas de recommandation, il n'y a pas scientifiquement temps, on sait que ni le chaud ni le froid a vraiment une validité scientifique. Moi, je préconise aux gens d'essayer et de voir ce qui leur fait du bien. Vraiment, si jamais ça leur apporte.
Alors, dans le dos, on peut aussi avoir des douleurs entre les omoplates. Comment peut-on reconnaître cette douleur? Ça peut être carrément handicapant.
C'est une pointe qu'on va sentir entre les deux omoplates. Souvent, ça peut aussi faire mal quand on respire. Ça peut être associé à la respiration. Donc, en général, on le sait. Là, moi, j'invite quand même à aller voir l'ostéopathe. Ça peut être intéressant. Il va libérer pas mal de choses au niveau tissulaire, au niveau articulaire. Oui. Ça peut faire du bien. Donc, en première intention, voir l'ostéo.
Mais nous, tout seul à la maison.
Alors, il faut savoir que le corps, quand même, est une machine d'adaptation et est capable. Vous allez peut-être avoir mal pendant une semaine. Et puis, petit à petit, cette douleur va diminuer. Oui. Donc, soit on attend. Et si vraiment ça perdure, on consulte.
Toujours sur le compte Instagram de l'émission, on a Thibaut Normand qui demande quel mouvement vous conseillez, quel mouvement privilégier pour éviter les douleurs lombaires et cervicales.
Les mouvements, ça peut être tout ce qui est travail de bascule du bassin, quand on fait lenté-rétroversion, d'essayer de remettre en mouvement à quatre
debout
pattes.
À
quatre pattes ou sur le dos, assis.
Donc on fait
allongé.
Basculer le bassin en avant, en arrière. En avant.
L'idée, c'est de venir travailler son bassin, qu'il n'y ait pas de zone un peu de raideur inexplorée. On a souvent peur de cambrer, alors que c'est une fausse croyance.
Si quand on est sujet au mal de dos, on peut faire ça de temps en temps et ça permet de prévenir la douleur.
Exactement. Ou alors, tout simplement faire du sport, aller faire du pilates, aller faire du yoga, toutes ces pratiques-là sont excellentes pour aussi bien le bas du dos que les cervicales.
Les cervicales, c'est avec la tête, du coup on se met à quatre pattes et on met la tête en arrière, en avant.
Et puis faire du travail aussi au niveau des trapèzes.
Parler des trapèzes, on fait quand on a mal aux trapèzes?
Les trapèzes, ils souffrent en général, on pense qu'on les utilise trop. Et en fait, c'est faux.
Les trapèzes précisément?
Les trapèzes, c'est le grand muscle qui part au niveau de la base du crâne et qui vient au niveau des épaules, qui permet notamment au trapèze supérieur de remonter les épaules. Vous voyez? C'est là un peu la chape de plomb qu'on sent, là. Quand on a mal, là, on se dit, oh là là,
On a l'impression d'avoir la douleur du monde.
On porte le monde. En fait, c'est parce qu'ils sont plutôt sous-utilisés, ces muscles. Donc, moi, j'invite plutôt les gens à prendre deux bouteilles d'eau, une dans chaque main, les bras le long du corps et remonter doucement les épaules vers les oreilles.
Et surtout remonter jusqu'à chez moi au sixième.
Et doucement retenir en redescendant. Voilà, en le faisant par exemple 3 fois 15 répétitions, 3 séries de 15 répétitions, on va venir stimuler un peu les trapèzes, les renforcer et ça vous fera beaucoup de bien.
Très bien, merci beaucoup Nicolas Tikhomirov, alias Monsieur Clavicule, sur votre chaîne YouTube d'avoir été avec nous dans Bienfait pour vous. Merci pour ces conseils très pratiques.
Europe 1,
11h30,
Bienfait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre magazine dédié au bien-être et au mieux vivre. C'est jusqu'à 12h30, nous sommes ravis avec Julia Vignali de vous accompagner tous les jours. Et donc dans les 30 minutes qui vont suivre, on va parler tendance, ces bons plans, ces loisirs, ces aliments qu'on vous fait découvrir qui peuvent nous changer la vie ou juste nous faire du bien, c'est bien aussi.
C'est tout à fait ça Mélanie, c'est tout à fait ça Bienfait pour vous, c'est très bien résumé. Alors autour de notre table des tendances, tous les jours 3 chroniqueurs nous accompagnent. D'abord pour la chronique bien manger aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'accueillir le chef Abdel Alaoui. Abdel, vous allez nous présenter un plat qu'on adore, les rouleaux de printemps, mais revisités, c'est bien ça?
Ouais, les rouleaux de printemps revisités, hyper facile à faire, ludique et surtout très bon.
Ah bah, ça m'intéresse beaucoup, franchement, que dire de plus, j'ai hâte d'en savoir plus, même si jusque-là, moi, les rouleaux de printemps dans ma cuisine, ça n'a jamais donné grand-chose.
Vous y prenez mal.
Voilà, moi, ça s'appelle bouillie de printemps chez moi. Voilà. Mais vous allez nous donner des leçons. Ensuite, ce sera au tour de Sophie Braffman, toujours stylée, toujours radieuse. Sophie, évidemment, vous avez été à la Fashion Week Paris, et vous nous avez ramené des pépites, j'en suis sûre.
Alors évidemment, deux événements essentiels, je dirais le défilé Dior et le défilé Saint-Laurent, parce que la mode, on l'aime ou on la quitte, et si vous n'avez pas répondu à cette question, vous allez passer tout l'hiver avec une doudoune sans manches.
Oh non, il n'en est pas question. Et puis enfin, cette séquence tendance s'achèvera avec Nathalie Le Breton. Et Nathalie, bonjour. Vos meilleurs conseils lecture pour les plus jeunes, sur quel thème ce midi?
Aujourd'hui, le trop d'écran. Comment faire avec le trop d'écran et les enfants? Éduquer nos enfants, rééquilibrer tout ça, on en parle avec des livres.
Merci beaucoup Nathalie, on vous retrouve dans quelques minutes, mais tout de suite, on a déjà l'eau à la bouche, on va passer à table, il est temps.
Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances.
Allez, on attaque dans la partie tendance de ce magazine qu'on ouvre tous les jours désormais par les nouveautés du côté de la gastronomie. On vous dit tout le temps qu'ici, on veut vous faire du bien. Je crois que notre chef Abdel Alaoui nous a préparé. Ce qu'il nous a préparé va nous faire plaisir. On va redécouvrir avec vous les rouleaux de printemps. C'est à vous.
Ouais, alors cette année, si vous voulez être tendance, les filles, être à la pointe de la gastronomie, vous faites des rouleaux de printemps pour vos potes. Alors hier, c'était le règne américain avec les burgers qui ont déferlé sur les 5 continents. On a eu des burgers au maroilles. On a eu burgers chèvres. Et on a eu aussi des burgers d'insectes. Très bizarre, hein. C'est dégueu ça. Et bref, le burger s'adaptait à toutes les cultures. Et mais ça, c'est fini en fait.
Pourquoi ? C'est saut 2020, c'est ça ?
Ouais, c'est saut. Enfin voilà, saut 2020, c'est l'avenir est dans la de l'assiette et autour du Vietnam.
Good morning Vietnam. Voilà.
C'est exactement ça. Alors, le nouveau rouleau compresseur, c'est le petit rouleau de printemps qui va devenir très grand. Alors, on commence par la France. Alors, tout le monde connaît les Français. On est très, on aime le goût, on aime la gastronomie dans tous ses états. Les épices, on aime accorder comme ça les cultures. Et il y a quelques chefs hyper gastronomiques qui ont chopé un peu le filon. Notamment Eric Fréchon au Bristol, lui propose un rouleau de printemps au King Crab.
Ah ouais, quand même ça.
Alors très bon, mais très cher.
Ah
ouais, c'est ça le truc.
Vous avez le prix du rouleau, non ?
Le
prix du rouleau.
Le prix du rouleau, je pense qu'il est pas loin de 20 euros le seul rouleau. Alors il est coupé en maquis, il est bien présenté, mais il est très bon. Franchement, faites des économies, allez le tester. Sinon, on a le modèle un peu street food, comme ça, manger sur le pouce.
Ça, on préfère, nous,
entre deux rendez-vous, et on peut le manger comme ça dans la rue. Et c'est assez agréable. Ou la troisième chose, c'est en mode apéro avec les copains, en détente, vous présentez le petit rouleau et ça marche très bien. Alors on y met ce qu'on veut, les rouleaux en général, plutôt des choses crues comme les carottes, les avocats. On peut mettre un peu de radis noir, de la coriandre, de l'aneth, du poulet s'il est cuit. Par exemple, si vous avez un poulet qui reste de la veille, vous l'effilochez, vous le mettez comme ça dans votre rouleau avec un peu d'avocat, des graines de sésame noir. On apporte un peu de sucré avec de la mangue, on roule tout ça.
Ah, la mangue avec le poulet, j'avais jamais pensé, c'est pas mal.
Ça marche hyper bien. La mangue, c'est sucré, ça apporte de l'acidité. Il faut toujours, en fait, moi dans mes rolls, ce qu'on appelle les rolls finalement, je mets toujours un peu d'acidité, un peu de sucré et un tout petit peu de piment. Voilà.
Ah, du piment, alors pas qu'il rache trop.
Non, un tout petit peu, vous prenez un peu de piment d'Espelette, comme ça vous saupoudrez par-dessus, vous roulez et ça donne, ça relève
un peu.
Pour
ceux qui aiment plus, on peut mettre un piment un peu plus fort, parce que moi je trouve que l'Espelette c'est très bon, j'aime beaucoup, mais ça manque un peu de chaud.
Oui, sinon vous mettez de la rissa.
Il y a Sophie Braffman qui a des questions.
Moi j'ai un très très gros problème avec le rouleau de printemps que j'adore. Comment on fait pour manger un rouleau de printemps proprement, sans en avoir plein les dents?
Justement, la technique d'Éric Fréchon et finalement la mienne aussi, c'est que je les coupe comme des maquis. Alors vous prenez. Alors en plus, c'est hyper ludique le rouleau de printemps. Vous invitez les potes. Chacun prend sa galette, vous avez chacun un bol d'eau chaude. Alors c'est très important l'eau chaude, parce que du coup ça va attendrir cette galette au lieu de la rendre croquante.
Galette de riz.
Alors il y a deux côtés, il y a le côté un peu avec un relief et un côté lisse. Côté relief, c'est là où on va mettre la garniture.
J'allais vous dire, c'est peut-être là que je me suis trompée, parce que moi ça ressemble toujours à une bouillie, la galette de riz. Je sais pas si je mets l'eau trop chaude, si je mets se roule. Donc côté relief, c'est
côté relief, c'est le côté intérieur,
c'est là où on met la nourriture.
Voilà, et le côté lisse, c'est le côté extérieur.
Je crois que j'ai fait l'inverse, c'est peut-être pour ça que ça a pas marché.
Et pour le rendre gourmand, justement, on va y mettre tous les ingrédients que je vous ai donnés, des herbes. Moi j'en fais un qui s'appelle le Bollywood, ça c'est un petit clin d'œil au cinéma.
Du
curry. Donc on prend toujours le poulet filoché, vous mettez un peu de curry dedans, des cacahuètes, de la mangue, coriandre, un peu de carotte, et on va y mettre un peu de roquette, ça, c'est un peu poivré la roquette.
Avec le curry, ça doit pas être mal. Hein.
Voilà, c'est hyper bon.
Mais dites-moi, Nathalie Le Breton a une question à vous poser.
Non, mais je rebondis sur ce que disait Mélanie. En fait, est-ce que c'est pas l'histoire de le laisser trop longtemps dans l'eau ? Moi, j'ai la même chose, la bouillie. Parce que combien de temps tu le laisses dans l'eau un peu tiède pour qu'il se ramollisse ?
On le laisse pas dans l'eau, en fait. On prend juste la galette, on la trempe dans l'eau chaude, on la retire tout de suite.
Parce que moi, je la laissais mariner, en fait.
Là, vous allez faire des ravioles de.
C'est pour ça que ça marchait pas, mais c'est génial. Et dites-moi, c'est quoi là? Bon, on a compris ce qu'il fallait mettre dans la galette, mais la technique du roulage.
Alors la technique du roulage. Alors plus on va la bomber cette galette, plus on va rajouter de la salade comme de la roquette, de la batavia parce que c'est croquant. Plus elle va être serrée, donc plus facile à rouler finalement. Et après c'est facile. Hein. On rabat le bas, on rabat le bas. Donc sur la garniture, on tire. On roule, on tire, on roule, on tire. Et après, on rabat les côtés. Et la dernière, ce qu'on appelle la dernière spirale qui est au-dessus, là, le dernier côté.
On la coince.
On la coince avec ça. Et ça se colle naturellement, parce que le riz, finalement, c'est une colle naturelle.
C'est comme des briques. C'est comme quand on fait des briques.
Exactement. Sauf que les briques, on y met du jaune d'œuf pour les coller. Et là, c'est vraiment naturel. Avec le riz, ça se colle naturellement.
C'est marrant. Moi, avec les feuilles de briques, ça colle jamais. J'ai beau mettre de l'œuf. La galette de riz, elle colle, elle dégouline, elle suinte à mes doigts.
Ou peut-être vous mettez la feuille de riz.
J'ai un problème avec tout ce qui se roule, je crois. C'est ça, mais c'est pas évident. C'est génial. Et c'est moins calorique qu'un burger, non ?
Hyper moins calorique, ça a été prouvé. Il y a que du cru, du mou, du
D'ailleurs, vous avez perdu 40 kilos depuis que vous mangez que des rolls.
Ouais, je me suis mis au roll. Pendant que mes potes, ils s'enfilent encore des burgers, moi, je suis passé au roll.
On dit plus rouleau de printemps, c'est ringue. Hein. On dit roll.
Roll, ouais. C'est hyper branché.
Ouais.
Roll.
Ouais, d'accord, on va manger des rolls, c'est génial.
Et franchement, ça prend vraiment le pas sur tout le territoire français. C'est plutôt pas mal. Voilà.
Mmh. Bon, c'est une affaire qui rôle, hein, c'est ça.
Exactement ça.
Elle est bonne. Et on peut tous donc en faire avec chez soi. Ça tout ce qu'il y a dans le frigo, finalement, on peut assembler bien tout ça. Et
Ouais, tout ce qu'il y a dans le frigo. Moi, j'en ai créé un qui s'appelle le Sticky Mango Roll, qui est un dessert qu'on mange en Thaïlande, comme ça, dans la rue.
Ah, donc ça peut être même un dessert, le rouleau de printemps, en fait.
Donc
c'est
sucré.
C'est du riz au lait de coco. Donc, une recette de riz classique, riz au lait classique, sauf qu'on y met du lait de coco, on va y mettre un peu de mangue, du gingembre confit. Vous voyez le gingembre qui reste toujours en sachet quand on prend ses sushis.
Il reste au frais. Dans le frigo.
Et ben on va l'étaler comme ça sur le riz au lait de coco, un peu de mangue. On peut y mettre un peu de poudre de cacahuète comme ça qu'on va écraser dans un mortier.
Et roule ma poule. La prochaine fois, vous revenez avec. Merci beaucoup Abdel pour cette découverte culinaire. Franchement, on est loin du classique rouleau de printemps toujours à la crevette. On a compris qu'il y a mille façons de les savourer et qu'on peut même, en suivant vos conseils, se lancer chez nous pour régaler toute la famille. On revient très vite. Le feu d'artifice des tendances continue sur Europe 1 avec ce que Sophie Braffman nous a rapporté de la Fashion Week à Paris. On va se rhabiller pour l'automne-hiver. Et puis Nathalie Le Breton, elle a des conseils précieux de lecture pour nos enfants.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et nous sommes toujours en pleine séquence tendance avec notre bande de chroniqueurs autour de la table. Maintenant qu'on est bien repu, enfin il n'en a pas amené, mais on a parlé des rouleaux de printemps de notre chef Abdel Alaoui. C'était pas trop calorique, vu qu'on n'en a pas mangé, effectivement.
C'était du
air roll. Étant donné qu'on n'a pas engouffré trop de calories, eh bien on est prête à enfiler vos plus jolies trouvailles de la Fashion Week. Sophie Braffman, c'est à vous.
Alors évidemment, ça ne vous a pas échappé, hein. C'était la Fashion Week cette semaine. Paris est rempli de gens incroyables et donc des grands défilés qui ont démarré avec tout d'abord le défilé Dior.
Alors, dites-moi, il y avait du monde défilé Dior?
Je dirais que ce n'était pas il y avait du monde, c'était un peu comme la ligne 13 un soir de match au Stade de France, avec pas tout à fait la même clientèle bien sûr. Bon, j'avais mon invitation, mais pour éviter de mourir sous un coup de sac d'une mode surexcitée, j'ai trouvé une parade incroyable, les filles, je vous la conseille pour plus tard. Vous followez une star. Alors qu'est-ce qui se passe? Devant moi, la sublime Natalia Vodianova, la super modèle aux 4 enfants en taille 34.
Comme vous?
Eh bien, tout à fait, comme moi, dans une sublime robe crème. Qui met une robe crème en plein après-midi? Si on se fait tâcher, c'est un
peu
dommage.
Surtout sur la ligne 13.
Surtout sur la ligne 13. Alors justement, là, derrière Natalia, qu'est-ce qui se passe? La foule s'ouvre en deux, parce qu'il y a des gardes du corps. Ça fait comme, un cortège. Donc vous suivez le cortège, le garde du corps a un air un peu vénère en vous regardant, mais voilà, vous êtes là, juste derrière Antoine Arnaud, le fils de Bernard, qui possède la maison, bien évidemment.
Et qui est son mari, donc.
Tout à fait, qui sont mariés, avec qui elle a un enfant. Donc du coup, le cortège s'ouvre et là, j'arrive derrière, sous une immense tente. Enfin, c'est pas une tente non plus, on n'est pas au camping des Flots Bleus, c'est plutôt un chapiteau. Et sous cette tente, un jeu de lois géant, gigantesque, qui a été reconstitué pour l'occasion. Alors, je vous explique. Donc les mannequins arrivent tout en trombe en même temps. Normalement, dans un défilé classique, elles arrivent une par une, délicatement. Là, elles arrivent tout en même temps. Au milieu, Julia, de la musique italienne. On était un peu dans une boîte de nuit romaine des années 60.
D'accord.
Donc c'était vraiment féerique. Et là, alors, des tenues absolument extraordinaires. Maria Grazia Chiuri, donc la créatrice, a même réussi à ressusciter le Bermuda que je croyais définitivement réservé aux plages de Royan l'été.
On va devoir en remettre.
Alors, c'est sous forme de tailleur, un petit tailleur Bermuda noir somptueux. Ah. Vraiment, alors, c'est la collection
Abdel,
printemps-été.
Ça nous irait super bien pour faire préparer les rôles.
Le Bermuda?
Ouais,
le
Bermuda.
J'en mets tous les jours.
Alors, sinon,
exceptionnellement, je l'ai pas mis.
Pour vous, Abdel, j'ai pensé plutôt à la robe strassée. On est vraiment sur des formes trapèzes dans les années 60. Donc, de l'irisé, des petites babies, vous savez, ces chaussures rondes, c'est très joli, avec des lacets fluo, Julia, si vous vous perdez en boîte, hop, on vous retrouve, c'est la fille avec les lacets. Donc vraiment, c'était une mode résolument féminine, féministe, sulfureuse et luxueuse, bien sûr, qui nous réconcilie avec l'envie de s'habiller pour ce printemps-été prochain qui s'annonce diablement pailleté. Alors ensuite, il y a eu le défilé Saint-Laurent, c'est un autre temps
fort.
C'était le même
mais
soir,
Saint-Laurent
tout à
ne devait
fait.
Pas défiler.
Oui, mais alors Mélanie, dans la mode, c'est vraiment ça qui est important, c'est pas je fais ce que je dis, c'est je fais ce que je veux. Voilà, que ça soit bien clair. Ça, c'est vraiment le principe de la mode. Et alors, du coup, Anthony Vaccarello, le DA de la maison, a illuminé l'esplanade du Trocadéro, un hommage vibrant à Paloma Picasso, avec des coupes gender fluide. Alors, gender fluide, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est Abdel peut les porter et moi aussi. C'est pour hommes et pour femmes.
Pour hommes et femmes.
Voilà.
Ouais,
donc,
des couleurs. On met les mêmes fringues, ça simplifie le dressing et tout ça.
Exactement. C'est très pratique et ça se fait de plus en plus. Des couleurs très fortes comme le rouge et le bleu Paloma, souvenez-vous, et une accumulation d'imprimés fleuris, signature de la maison. Donc, ce printemps-été, les filles, si vous voulez avoir l'allure Saint-Laurent. C'est très simple. Vous n'hésitez pas à faire tapisserie en combinaison fleurie. Vous sortez vos couleurs les plus criardes et prenez des cours de marche parce qu'on avait quand même des escarpins aiguilles. Ah, donc, ouais. Je n'aimerais pas être à la place de ces filles qui les portent. C'est vraiment très difficile.
Et vous avez eu un coup de cœur, quelque chose?
Alors, j'ai eu un énorme coup de cœur, mais c'était pour une soirée. La soirée du Couturfu qui était le lundi soir. Tout le monde était là, même Christina Cordula herself. Donc c'était vraiment magnifique. Alors qu'est-ce que c'est Couturfu? C'est une page Instagram à laquelle je vous recommande vivement de vous abonner, avec plein de paradigmes, de petites métaphores, des quiz, des drôleries. Et en fait, ils sortent un manuel qui s'appelle un manuel de survie à la mode. Alors je vous ai ramené un de ces petits quiz pour savoir si vous êtes des vrais modeux, modeuses autour de cette table.
Préparez-vous.
Alors, vous êtes prête?
Oui.
Sur quel motif suivant pouvez-vous définitivement tirer un trait puisqu'il n'existe pas? A. La rayure tennis. B. La rayure banquier. C. La rayure marin. D. La rayure parasol.
Nathalie Le Breton.
Alors.
Parasol.
Bah, bien, bravo Nathalie. Bah, évidemment. Mais
espèce de hasard d'intuition.
À quoi elle ressemblerait cette rayure parasol? Ça serait une énorme rayure de glandeur, franchement. On ne peut pas imaginer une rayure parasol. Donc Nathalie, attention, vous êtes sur la bonne voie. Je continue avec ma deuxième question, donc toujours tirée de ce manuel de survie du Couturfu. Comment s'appelle le hit-bag Jacquemus capable de contenir jusqu'à 2 morceaux de sucre et un ticket de métro plié? Autant vous dire que c'est un hit-bag ridiculement minuscule. Le Chiquito, le Pichoun, le Kéké ou le Pecno?
Abdel Alaoui?
Le Pichoun.
Non.
Le Kéké,
le Chiquito, les filles, le Chiquito, tout de suite. Vous voyez pas à quoi il ressemble? Il est, il est plus cher que plus grand, hein, mais franchement, il est plutôt très joli et il a fait la réputation de Jacquemus, entre autres. Alors, dernière question, évidemment. Laquelle de ces muses est plus souvent convoquée sur un podium qu'un Balkany au tribunal? Françoise Sagan, Françoise Hardy, France Gall ou François Hollande?
C'est dingue ça, mais
Julia, vous diriez quoi?
Moi, je dirais que c'est Sophie Braffman.
Ah, bah, écoutez, j'aimerais juste à côté de François Hollande. Comme ça, on pourrait faire un petit duo ensemble, éventuellement, ça pourrait être pas mal. Eh bien non, malheureusement, ce n'est pas moi, enfin du moins pas encore. C'est Françoise Hardy. Et c'est vrai que la mode fait souvent référence à elle. Elle est très belle.
Elle est iconique.
Elle est iconique. Ouais. Et à chaque tenue portée de Françoise Hardy, eh bien, on a envie de la porter nous aussi. Eh bien, ce printemps-été, les filles, on va toutes être un peu en Françoise Hardy, je crois.
Moi, j'aime bien. Il va falloir que je me fasse limer les hanches. Merci beaucoup, en tout cas, Sophie Braffman. C'était étincelant, comme toujours, avec vous. Vous ne bougez pas, Sophie, parce que je sais que même si votre quotidien, c'est de traîner dans les défilés, vous êtes aussi une maman. Hein.
Oui, j'ai beaucoup d'enfants et un gros problème d'écran.
Justement, les conseils lecture de Nathalie Le Breton vont vous captiver, j'en suis certaine. Nathalie, on pense qu'avec nos enfants, ça va mieux en le disant et ça va même mieux en le lisant, selon vous. C'est très joli, cette punchline. Surtout quand il s'agit de maintenir un cadre dans l'usage des écrans sans générer pour autant des crises. En plus, ils nous regardent, nous, avec nos écrans, on est carrément en contradiction avec eux. On est bien d'accord, hein ?
Exactement. Vous êtes à l'opposé du principe éducatif. Donnez le bon exemple. Et là, effectivement, la difficulté, c'est pas de dire non aux écrans. Ça y est, c'est fini tout ça. Les écrans, on vit avec. C'est même très utile. C'est même très intéressant d'un point de vue éducatif. Comment surtout réguler et maintenir de la relation avec les enfants, de la discussion, du dialogue. Alors, j'ai un bon livre à vous conseiller. D'abord pour les plus petits, pour le tien, qui a 3 ans, et même un petit peu au-dessus.
C'est le fils d'Abdel?
Le fils d'Abdel. Martin et les écrans. Je sais pas comment s'appelle ton fils.
Il s'appelle Lazare. Lazare. Le petit 3 ans.
Ça pourrait être Lazare et les écrans. C'est très bien fait, parce que bien sûr, ce petit gars, il est envoyé dans sa chambre parce qu'il y a trop d'écrans. Il réfléchit 2 minutes parce que nos gamins sont quand même super intelligents. Et là, il revient avec un super argumentaire en disant, mais toi, papa, tu passe ton temps à regarder ton écran GPS. Mais toi, mamie et papy, je sais pas où est-ce qu'ils sont, mais ils ont passé toute la journée devant la télé. Et vous voyez que cette mise en abîme de nos comportements, d'un seul coup, ça fait réfléchir les parents, notamment les mamans aussi. Et là, ils se disent, la maman se dit, mais c'est vrai. Non, mais je reconnais, quand on s'est baladé en forêt, j'étais en train de regarder les messages de mes copines. D'accord? Toujours la mère qui en prend un peu plus cher. Hein. Et puis, en fait, à ce moment-là, ils vont faire quoi? Ils vont se servir d'un écran pour faire une recette de cuisine. Et donc, les écrans vous amènent à la vraie vie aussi. On se sert d'un écran, c'est ludique, ils adorent ça. Et on vit une activité en famille.
Bon, voilà. On se coupe pas du monde. Petit Martin, dans ce bouquin, il a l'air bien raisonnable. On adorerait tous l'avoir celui-ci à la maison comme modèle. Mais quand les enfants sont plus grands, Nathalie, et ils n'arrivent pas à décoller de leur écran, jusqu'à en faire un sujet d'opposition, on fait comment là?
Eh oui, surtout pas au moment de la crise. Hein. Ouais, c'est pas la peine, vous allez vous arracher vos cheveux. Et puis, et lui, il va s'énerver un petit peu plus. Ils ont quel âge vos enfants?
Alors moi, j'ai 16 et demi et 15 mois.
C'est
un concept.
Moi, j'ai un garçon de 12 ans.
Et, pas mal. Voilà. Pas mal.
Et moi, il a 15 ans.
Ouais, mais ça peut le faire. Parce qu'à ces âges-là, il y a quand même quelque chose qui les intéresse, c'est les filles.
Ça commence.
Et c'est pas forcément derrière les écrans qu'on peut les choper le plus facilement. Bref, donc l'humour, par contre, c'est pas mal. Alors Loupé, c'est excellent. C'est un livre de Christian Wolff, qui est un gars qui a plein d'humour. Il revient sur notre société de communication. Il y a très peu de textes. Regardez ça.
C'est bien dessiné en plus.
Il y a très peu de texte. Et en fait, ça se passe un arrêt de bus, un seul lieu, une seule situation. Il y a un vieux qui est assis et lui, il est fasciné par le spectacle qui se déroule là sous ses yeux. Il y a des petites fourmis qui sont en train d'agir des trucs de rien du tout. Et puis, il y a un jeune qui arrive, il est avec son selfie, les boules, il faut attendre encore son bus et tout. Et il est dans ses selfies et il est dans ses chats et l'autre, il est toujours plus passionné, etc. Le jeune s'énerve parce que finalement, faire des selfies, ça calme pas le jeu. Et donc, il s'énerve. Et puis, d'un seul coup, le bus arrive. Et le grand-père est là. Vous avez vu le spectacle? C'était formidable et tout. Les fourmis sont amoureuses et tout. Et l'autre, il est là. Ah, quoi? Un spectacle? Un show? J'ai raté quelque chose? Et évidemment, le grand-père monte dans le bus, mais lui, il le rate. Donc, en fait, c'est c'est que de la scène à décrire. Mmh. Et en fait, ça met de l'humour. On se moque gentiment de soi-même, mais aussi un petit peu d'eux. Et ça, ils n'aiment pas trop. Et surtout, ils ont raté le clos du spectacle.
Alors, très rapidement, Nathalie, un dernier livre sur les problèmes de concentration. Parce qu'effectivement, à force d'être derrière les écrans, eh bien, à l'école, notamment, ça peut un peu décrocher. Comment on les ramène à plus de zénitude?
Ok, alors, je vais y aller sur Imagine que tu es dans l'espace. Ça, c'est de carrément une guidance audio. Donc, c'est très bien. C'est un livre. Il y a des images, ils vont ailleurs et en même temps ils se laissent parler. Vous parlez beaucoup de sophrologie ici dans cette émission. Eh bien voilà, c'est de la vision guidée. Vous l'installez dans sa chambre, t'es énervé, ok. Prends donc ce livre, mets ta radio, écoute. Et là vous avez des exercices respiratoires. Vous l'invitez à travailler son imaginaire. Mmh. En plus l'espace c'est plutôt bien.
Adapté pour les enfants vraiment, hein. C'est pour les enfants.
Exactement, et même pour les jeunes. Mmh. Et même pour les jeunes quand ils sont en pleine crise, qui commencent à avoir des migraines. Et ça c'est excellent parce qu'ils vont trouver des trucs après. Respiratoire pour se mettre dans leur bulle au moment des devoirs, le truc un peu pénible. Eh bien, au lieu d'aller chercher sur l'écran, avant d'aller sur l'écran, pause, bulle, tu respires, t'es pas content, tu fais le lion en yoga et ça marche.
Oh là là,
ça vous plaît, Abdel? Vous voyez bien le petit, le 3 ans, pourquoi pas, la guidance audio?
Ça donne hyper envie. Alors, j'en ai un qui a 7 ans, lui, il est vraiment dans son monde et il adore lire, justement. Et on fait toujours un sas comme ça, justement, de lecture avant l'écran. Ça, bizarrement, ça marche.
Ouais. Et ça marche.
Bon, vous pouvez peut-être lui offrir, Nathalie.
Je vais partager maintenant, il y a Mélanie.
Il y a beaucoup de monde qui valent vos livres. Merci beaucoup Nathalie et merci à tous les trois en fait pour vos conseils, ces tendances que vous nous faites découvrir à chaque fois. On vous retrouve évidemment très bientôt dans Bienfait pour vous. Et oui, vous l'avez compris, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve bien sûr demain à 11h. Et Mélanie, quelle sera notre question du jour?
Eh bien Julia, on va se demander demain et si on arrêtait enfin d'avoir peur. Vous savez, ces peurs qui nous paralysent au quotidien, qui nous empêchent de faire des choses, voire même ces phobies. Justement, c'est quoi une phobie? Et surtout, comment ça se soigne? Vous savez quoi, la bonne nouvelle, c'est qu'il paraît qu'en quelques semaines, on peut vraiment régler ce genre de problème.
Ah ça, effectivement, ça va en rassurer quelques-uns. Donc n'ayez pas peur, soyez au rendez-vous. Et en plus, demain, il y aura encore de nouveaux sujets tendance, de la santé et toujours de la bonne humeur. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 39 21. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.